Là, le corps qui nous appartient plus, c'était aussi une des idées que je trouvais très fort dans la série de Beth Behoun. J'aime bien l'image que vous avez sur votre gauche. On retrouve d'ailleurs l'acronyme H+, en haut. Et puis cette espèce de corps qui nous appartient plus, parce que ce corps qui porte les stigmates, non pas d'un processus tribal ou d'un rite d'initiation, mais parce qu'il est marqué, quasiment ici, perforé par Google, Apple, Facebook, enfin bref, ce qu'on appelle les GAFAM, et que ce corps-là devient le support, en fait, le support de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, évidemment, vous l'avez compris, c'est ce technocapitalisme, en sachant que l'être humain devient une ressource de cette espèce de scénarisation. Donc l'exposition permettait de... Enfin, permet toujours, parce que c'est pas fini, mais permet de réfléchir un petit peu à cette idée que la science, ou les discours scientifiques, en général, on a une posture qui sort, qui est assez catégorique, c'est soit vous êtes pour, vous trouvez ça plutôt bien et utile, soit vous êtes contre, ou risque d'être traité de bioconservateur, ou de... Enfin, d'antiprogressiste, etc. Or, évidemment, la question d'être pour ou contre n'a aucun sens dans un débat scientifique ou dans un débat philosophique par rapport à ça, dans le sens où ça serait absurde d'être contre. On vit quand même 50 ans de plus qu'il y a 200 ans, et la plupart d'entre nous sommes quand même relativement contents de pouvoir bénéficier de quelques avantages, comme par exemple l'hygiène. Puis en même temps, être pour de manière directe est d'une naïveté assez confondante. Une des problématiques qu'on a dans un technocapitalisme tardif, c'est de ne plus être capable, si on l'a été un jour, de scénariser, hein, ou plutôt de narrativiser la science. C'est comme si cette science, elle était là, hein, on vous dit, nous allons augmenter les capacités humaines, ça doit être la vie, et alors ? Comment ça va avoir, quelles répercussions ça va avoir sur ma vie ? Comment je vais vivre en étant augmenté ? Ou comment je vais mourir en étant augmenté ? Hein, ces questions-là de comment je vais diriger ma vie, alors que vous passez, vous comme moi, votre temps à raconter votre vie. Vous racontez votre vie à vos proches, à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Hein, vous passez votre temps à la raconter. Hein, vous absorbez en permanence toutes les choses qui vous arrivent et vous les mettez en récit pour créer une identité. Et là, on vous parle d'augmentation, on vous parle de prothèse, sans qu'il y ait de récit, sans qu'il y ait de... On vous dit juste que ça ira mieux pour vous. Hein, et ça va mieux. Voilà. Et l'idée de la science-fiction, vous voyez, elle n'est pas... elle n'est pas utilisée dans cette exposition-là comme dans les autres de la maison d'ailleurs, comme une sorte de fétiche comme ça d'un ghetto de je vais dire jeune geek, mais on vieillit, donc voilà, on n'est plus trop là-dedans, mais on essaie plutôt de voir ça comme un outil qui permet de proposer une narrativisation, donc de mettre en récit la science qui est offerte à tous les lecteurs, spectateurs en fait qui s'y intéressent, et le fait de mettre en récit la science, le fait de suivre le parcours d'un individu humain qui vit cette science, nous offre en fait des cadres avec lesquels penser notre vie. Ça peut paraître bizarre, mais de nouveau, quand j'étais ado, on attendait tous le coucher de soleil. Parce que le coucher de soleil, si vous le passiez avec une fille, ou le lever de soleil, ça dépendait des périodes, ça veut dire que là, il y avait de l'amour. Vous voyez ? Il y a pas mal qui se sont fait avoir avec ce truc. Mais... il y avait la possibilité, avec le coucher de soleil, qui n'a donc strictement rien d'amoureux. Enfin, vous êtes d'accord, le soleil se couche, ça doit être physique de base, bon, ça éclaire un peu le ciel en rouge. Mais il n'y avait rien d'amoureux, mais par contre, il y avait un ensemble de scénarios romantiques, qu'on voyait par exemple au cinéma, mais pas que, qui faisaient que les personnages de fiction s'embrassaient au soleil couchant ou levant. Et c'était ça l'amour, là. Vous voyez, le baiser dans une boîte de nuit, ça faisait un peu de chipose, quoi. Hein, donc, rester jusqu'à 5h du matin, c'était... Voilà quoi. Ça voulait dire quelque chose. En fait, évidemment, ça voulait strictement rien dire, mais ça montre comment la fiction, elle offre des cadres avec lesquels on va commencer à organiser notre vie. Ah tiens, si je suis capable de rester jusqu'au soleil, au petit soleil levant, ça veut dire, et pour l'un et pour l'autre, hein, le code est partagé, ça veut dire, et pour l'un et pour l'autre, il y a peut-être de l'amour. Et on le sait, on le dit pas, parce que si vous le dites, ça fait un peu voilà. Et puis après, c'est encore plus beau. Et puis comme par hasard, ça, c'est des scénarios que vous retrouvez dans passablement de récits. Alors, par rapport à la science, le problème, c'est qu'on a souvent peu de scénarios. C'est soit on ira mieux, soit on ira mieux. Il y a à peu près que ça. On ne sait pas comment l'absorber, en fait. Et la science-fiction, pour moi, a toujours été une manière, parmi d'autres, de pouvoir absorber, c'est-à-dire rendre la vie ou rendre la science humaine, la transformer en une expérience humaine, qu'elle soit évidemment positive ou moins positive. Et c'est à ça que se dédie Core Concept, l'affiche que j'aime beaucoup, c'est-à-dire une exposition qui visait à inspecter non pas le transhumanisme comme idéologie positive ou négative, ce n'est pas les compétences de faire ça, mais plutôt de se poser la question et d'inviter les visiteurs de l'exposition, en particulier à travers la série de Bebdeum, et je suis convaincu que vous allez tous le faire tout à l'heure, de pouvoir se poser cette question de « Et si ces corps, ces clowns, ces clones, c'était moi quelque part hein, qu'est-ce qu'ils me disent de moi aujourd'hui? Pas dans 200 ans, 50 ans ou 3000 ans, juste maintenant, dans le monde dans lequel je suis. » Parce que ce Google, c'est maintenant qu'il fonctionne, parce que les likes et les maps, le GPS et tout ça, c'est maintenant que c'est là. Dans 50 ans, 300 ans, on ne sait pas. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens pensaient que la science-fiction parlait du futur, alors qu'il suffit de voir ça pour voir qu'elle nous parle de l'ici et maintenant. Peut-être parce qu'on n'aime pas l'image qu'elle nous renvoie de l'ici et maintenant. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de narrativiser les sciences, pour au moins avoir cette image-là de nous-mêmes, dans un monde qui est pétri de ce technocapitalisme. Et je laisserai donc le mot de fin à Alain, puisque moi j'ai terminé.
Bouteille à la mer. Ceci est un message pour l'Intertime. Pour vous, du passé, pour vous qui allez avancer vers nous d'année en année et qui ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas, comme si vous ne pouviez pas deviner où ça allait mener tout ça. En 2030, ils cloneront le premier jumeau en vagin artificiel, puis en couveuse en 2034, en conditions biotiques humanisées. Le premier bébé clone sort en 2038. Le premier adulte poussé à 15 ans en 2042. La commercialisation des corps de culture débute en 2046 avec la mondiale. Si vous interceptez ce fichier, envoyez-le au monde, partout, incessamment, jusqu'à ce que tout le monde sache. Merci.
On nous proposait une demi-heure de questions, et ça tombe bien parce qu'il reste une demi-heure pour les questions.
C'est parti.
Bon, s'il y a des questions.
Est-ce que vous pourriez nous...
Est-ce qu'il y a un micro volant, peut-être, pour les gens?
Attends, là.
Oh, ouais. Je sais pas. Wow.
C'est l'Intertime qui t'intéresse.
Je vais parler fort. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques utopies que vous connaissez, qui sont les figurations de la technique, mais qui se seraient développées sur des formes sociales et politiques que vous défendez et qui sont valorisées. On a parlé que des évolutions qui terrorisent. On n'a pas parlé des évolutions qui pourraient être appréciées, mais toujours dans un progrès technique.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais un peu mieux. Mais moi, il me semble qu'il suffit de prendre à peu près n'importe quel journal technologique ou même n'importe quel journal standard pour voir cette utopie à l'œuvre, en fait. La grande force du monde alors, technologique, scientifique, moderne, technocapitaliste, c'est qu'il passe son temps à générer des utopies. En fait, il n'y a pas besoin de... La fiction, vous voyez, elle ne fonctionne pas dans l'utopie. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà lu des utopies classiques, mais un, c'est ennuyeux. Parce qu'on ne fait que décrire un monde parfait, puisqu'un monde parfait ne peut pas bouger, il n'est pas soumis à la catastrophe, sinon il n'est plus parfait. Et en particulier, le problème de l'utopie dans la fiction, c'est qu'elle est toujours tributaire de son opposé, de sa face obscure, qui est la dystopie. Hein, ce sont les mots de cauchemardesque. Autrement dit, toutes les utopies qui ont été écrites depuis le XVIe siècle, bizarrement, même les utopies qui nous paraissent positives, comme l'utopie de Thomas More ou la Cité du Soleil de Campanella, sont toujours des utopies qui se renversent, et qui sont d'une part ironiques, et d'autre part qui semblent nous dire « si vous faites ça, vous allez ramasser ». Et je vous donne un exemple, la dernière phrase de l'utopie de Thomas More, c'est « cette cité utopique, je la souhaite plutôt que je ne l'espère, c'est un rêve plutôt qu'un programme ». C'est au XVIIIe siècle que les révolutionnaires ont imaginé que l'utopie pouvait être un programme, et c'est là où la merde a commencé. Donc je ne connais pas de texte, moi, à partir du XVIIIe siècle, qui pourrait être une utopie technique positive du domaine de la fiction. Par contre, j'en connais plein, de l'utopie technique mais qui n'est pas un statut fictionnel. Je pense, voilà, vous allez sur Google, vous mettez rapport NBIC, ou Converging Technologies, ou un truc comme ça. Mais rapport NBIC, et là, vous avez une super utopie transhumaniste. Mais ce n'est pas de la fiction. C'est-à-dire, on sent, c'est pas un texte de fiction écrit par un auteur de fiction. C'est écrit par des chercheurs qui a été adopté par la National Science Foundation américaine qui pilote la recherche américaine et européenne. Donc j'ai pas moi d'exemple.
Alors oui, je sais pas, j'ai compris la question différemment. Alors, j'ai peut-être rien compris moi. Moi j'ai compris que tu disais est-ce qu'il y a des perspectives technologiques enviables ou produisant des effets positifs dans le monde réel. Oui. Enfin moi un des exemples que je trouvais extrêmement intéressant où la technique pour moi amène une dimension sociale nouvelle et riche, c'est tout ce qui s'est passé autour des hackerspaces, autour des tiers-lieux, c'est-à-dire tous ces lieux où on a implanté notamment des imprimantes 3D, où tu as justement la possibilité d'échapper au monde Ikea dont tu parlais, que j'adore, parce que dans Fight Club, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans des mondes de permutation. Maintenant, vous allez dans n'importe quel centre-ville en France, moi c'est pareil, je trouve que c'est des permutations de chaînes, c'est incroyable. Tu vas à Angers, c'est exactement la même chose qu'à Tours ou à Lyon, c'est-à-dire que les rues commerciaux, les emplacements numéro 1 sont occupés exactement par les mêmes. Mais simplement, dans ces technologies qui te permettent de te réapproprier la fabrication toi-même de tes chaises, de tes tables, de tes meubles, de tes objets quotidiens, de tes lampes, etc., il y a une utilisation de la technique que je trouve vraiment intéressante, c'est-à-dire que tu retrouves la singularité, c'est-à-dire que tu désindustrialises les choses, tu retrouves une forme d'artisanat, mais d'artisanat accessible à tous, et que permet la technique. Donc ça permet d'échapper au monde Ikea, de la permutation indéfinie. Moi je suis comme toi, des fois j'ai des moments quand je prends un caddie en supermarché, ça me fascine à chaque fois. Parce que dans mon caddie, je sais que tous les produits que j'y mets sont parfaitement industrialisés, je suis juste une permutation du magasin. Quoi. Et tout le monde qui vient sur caddie, c'est une permutation du magasin. Et pourtant j'ai l'impression que c'est mon caddie, mes objets, mes courses et tout. Non, c'est rien du tout, c'est la permutation indéfinie des mêmes trucs. Et ce que permettent les imprimantes 3D et toutes ces techniques maintenant, hackerspace et tout, ça permet d'une réappropriation. Je trouve personnelle, singulière, des fois artistique, d'un univers qui s'est super industrialisé. On a des intérieurs complètement industrialisés, complètement pauvres, quoi, tu vois. On a tous les mêmes intérieurs, quoi, tu vois. Et ça permet, enfin, je trouve que c'est une technologie qui permet d'ouvrir autre chose. Ouais. C'est un des aspects positifs, en tout cas, utopiques, concrets, je vois.
Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est Fab Lab, mais qu'est-ce que ça. C'est même pas une utopie, c'est plutôt une manière, alors à mon avis, consciente, c'est une conscientisation des possibilités de la technologie, mais qui fait pas système. C'est peut-être pour ça que pour moi, ça peut pas être une utopie. C'est le moment où ça fait système que ça devient problématique. Là, les Fab Labs, ça éclot partout. Ils font tous des trucs complètement bizarres et un peu barges. Ils vous apprennent à faire des choses, à voir l'envers du décor. Mais c'est encore des mouvements qui sont pas unifiés, et tant mieux. Et
évidemment, le risque, c'est qu'on va être dispersif, comme ça. Ouais. Mais c'est positif, je trouve.
C'est pas une question. Enfin, c'est une question sans en être une, c'est une remarque. C'est un petit peu par rapport à ce que disait mademoiselle et madame tout à l'heure, par rapport à cette... on peut imaginer des utopies quand même optimistes. Et moi, je vous trouve un petit peu léger de balayer comme ça Darwin, comme si c'était rien, de balayer la thérapie génique, comme si c'était rien. Alors, vous avez dit quelque chose de très juste, mais vous ne semblez pas l'appliquer, c'est-à-dire que vous dites que c'est ce qu'on n'est pas pour, on n'est pas contre. Non, parce que là, le débat, il n'est pas là. Mais moi, ce que je vous proposerais peut-être de faire, dans votre recherche entre la science-fiction, les arts et les lettres, c'est peut-être d'inviter des scientifiques. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit? Vous avez de l'humour. Moi, j'ai senti plus d'humour dans la gravité du texte d'Alain Damasio, parce qu'il y a toujours un petit décalage qui est propre de l'art et de la littérature. Chez vous, je trouve qu'il y a un engagement un petit peu idéologique par rapport au transhumanisme, qui est une notion qui existe depuis l'Antiquité.
Vous
voyez ?
Bon.
On va lancer le débat.
Bon, je suis alors absolument pas d'accord avec vous. Déjà. Mais dans tous les débats auxquels j'ai participé depuis 15 ans, il y a toujours un mec comme ça, comme vous, et ça me fait marrer. Non, mais à part ça, plus sérieusement. Non, le transhumanisme, c'est pas du tout une notion qui existe depuis l'Antiquité. Ça existe depuis 1957, à tout casser. D'ailleurs, c'est assez marrant que le fondateur du mot transhumaniste est le frère de Aldous Huxley qui a écrit Le Meilleur des Mondes, comme vous le savez. Et je ne vois pas comment l'Antiquité, qui n'a pas une pensée technique telle qu'on l'entend, nous, peut se réclamer du transhumanisme.
Mais c'est quoi le transhumanisme?
Voilà. Alors, le transhumanisme, c'est très clair. Hein. C'est très, très clair. Vous avez d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, Association Transhumaniste Internationale, une déclaration, 9-8 articles. Le transhumanisme se décrit très clairement. L'amélioration des capacités humaines, cognitives, émotionnelles et physiques, par le biais de la convergence technologique. Définition du transhumanisme. Après, on peut présupposer que le transhumanisme, c'est autre chose. Mais ça, c'est de la surinterprétation. Le transhumanisme, c'est l'utopie technoscientifique de la fin du XXe siècle, post-New Age et post-hippie, par ailleurs, de tout ce qui se passe dans la baie de San Diego, les années 80, etc. C'est ça, le transhumanisme. Et c'est pas un mouvement, en plus. C'est la réunion de ces laboratoires de recherche du MIT, du Caltech, etc., qui forment, en fait, un ensemble de boîtes qui travaillent sur les quatre technologies convergentes, information, cognitive, biotech, nanotech. Par rapport aux scientifiques, j'ai passé mon temps, d'ailleurs j'en discutais dernièrement avec Alain, je dis qu'il y a toujours des scientifiques, et en fait c'est bien d'inviter les scientifiques, parce que les scientifiques, les gens les écoutent. Et se disent, ce type-là, en plus, je ne peux pas le chauffer, parce qu'il va me dire des trucs que je ne comprends pas, et j'aurais un peu con, sauf si je suis moi-même nanotech ou biotechnologue, ce qui est rarement le cas. Alors, donc oui, la réponse est évidemment oui. J'en ai invité des centaines de physiciens, j'étais encore en conférencière en Suisse avec un astrophysicien, et c'est pas non plus particulièrement pertinent. Disons que voilà, après on peut. Après, le problème du transhumanisme, c'est que personne ne se réclame jamais du transhumanisme. Les seuls types qui disent ça, c'est Moravec, qui vient d'être engagé par Google, c'est des types qu'on ne peut pas inviter, Nick Bostrom, enfin... Et après, tous les autres, ils sont jamais transhumanistes. On se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de milliards qui sont injectés dans ces laboratoires, alors qu'il n'y a personne qui est transhumaniste? En Suisse, par exemple, il y a des gens qui sont clairement transhumanistes, qui peuvent le dire, par ailleurs, dans des congrès transhumanistes, puis quand vous leur demandez, ils vous disent, ah ben non, je ne suis pas transhumaniste. Le patron de Neo Humanitas, qui est l'association transhumaniste suisse, lui dit, moi, je ne suis pas transhumaniste, mais son association s'appelle l'Association Transhumaniste Suisse. C'est assez marrant. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que on n'est pas parti sur la forme de l'humour, parce que c'était une conférence qui permettait de faire ainsi. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que d'aborder le transhumanisme par le biais de la science-fiction, c'est quand même marrant, quoi. Hein ?
Ça, oui.
Ah, voilà. Je ne sais pas si tu veux commenter.
Non.
Ouais, juste pour réagir, je trouve ça un peu bizarre en fait de balayer le transhumanisme en le réduisant à un ensemble d'acteurs, même s'il n'est pas constitué en mouvement, alors que, enfin, je comprenais pas bien ce que vous voulez dire, monsieur, en disant que le transhumanisme remontait à l'Antiquité. Moi, ce que j'ai compris, c'est de me dire, c'est que ça renvoie à des sentiments humains qui sont bien plus profonds. Et vous disiez tout à l'heure que justement, ce qui était intéressant, c'était de comprendre le discours transhumaniste pour comprendre ce que ça veut dire dans notre société aujourd'hui. Et du coup, voilà, je trouve ça un peu rapide comme réponse, parce que finalement, il y a peut-être un truc plus ancien quand même. Et là, ce qui me vient maintenant, c'est un peu le mythe de Prométhée, quoi, d'aller inventer mon monde, de créer l'homme moi-même. Voilà, du coup, c'est une réaction qui n'est pas forcément sous forme d'une question construite, mais... Est-ce que c'est pas plus intéressant aussi de s'orienter vers la compréhension de pourquoi on est attiré vers ça, comment on l'utilise, et pourquoi on aurait envie de former des formes de résistance à ça, ou pas, ou de se réapproprier un système qui semble émerger, ou en tout cas que des gens veulent voir émerger.
Je pense qu'Alain va pouvoir répondre à ça.
Ouais, bon, rapidement, c'est vrai que... Pour moi, il y a une grande... Enfin, moi, j'aime bien essayer de réfléchir sur ce genre de thèmes en termes de ce que j'appelle l'économie de désir. C'est-à-dire que quels sont les désirs qu'on investit dans ces thèmes-là et qui font que des choses pourtant relativement mortifères ou même carrément morbides et ont un tel impact, quoi, tu vois. Et c'est vrai que dans l'économie de désir qu'il y a derrière, et tu as raison d'invoquer Prométhée, la mythologie, c'est pour moi, c'est l'antique désir d'être Dieu, quoi, tu vois. Antique désir qui est propre vraiment à l'espèce humaine. Quand tu joues avec des gamins, tout gamin a envie à un moment donné d'avoir un super pouvoir, de maîtriser le feu, de voler, tu vois, cette espèce de pensée magique qu'on a nativement, quoi, elle a toujours été constitutive de l'humain, quoi, tu vois. Donc, et elle est à l'origine d'une pléiade absolue de récits, à commencer par les récits mythologiques, et qui finissent aujourd'hui par de la marvelisation à haute dose, subie et qu'on se blockbusterise dans la gueule depuis un décennie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi l'espèce humaine, si tu veux, nous, on a un cadre ontologique. Voilà, on est une espèce vivante, on a un cadre ontologique. Par exemple, un des cadres ontologiques très énervants, c'est que je peux être que ici et maintenant, par exemple, tu vois. Bon, bah, subvertir ça, et c'est ce que propose le numérique, plein de moments, c'est-à-dire d'être à la fois partout en même temps, etc. D'avoir ces hologrammes comme Mélenchon, tu vois, partout, machin. Donc, cette subversion-là, ça nous fascine, ça nous attire. C'est dans l'économie des désirs qu'on a à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est hyper trippant, tu vois. Dans le trip absolu aussi qu'on a, c'est la mort de la mort. On veut faire mourir la mort, tu vois. On veut éliminer la mort, parce que la condition ontologique fondamentale de l'espèce vivante, c'est qu'à un moment donné, tu vas crever, quoi, tu vois. Donc faire mourir la mort, putain, ça c'est quand même super kiffant. Voilà, pareil. Arrêter le vieillissement, tu vois. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on s'est battu, on continue à se battre. Supprimer la maladie, supprimer la souffrance, éliminer la fatigue, etc. C'est-à-dire que tout ce qui constitue... le cadre de l'existence incarnée, on a en nous ce désir de le subvertir, quoi, tu vois. Les transhumanismes surfent sur ce truc-là. Moi, simplement, ce que je dis par rapport à ça, mais après, c'est des positions que j'assume comme purement philosophiques, ou peut-être idéologiques, mais disons philosophiques en tout cas, c'est de dire, pour moi, voilà, pour moi, l'espèce humaine a en elle absolument tout ce dont elle a besoin, tu vois, pour éprouver, exister et mener une existence intense, riche, féconde, extraordinaire, tu vois. On a tout, voilà, on a tout en nous. Simplement, ce qu'on n'a pas, c'est que très rarement on va au bout ce qu'on peut. Très rarement. C'est ce que dit Nietzsche, quoi. Il dit, putain, l'histoire humaine est l'histoire de l'homme réactif. Pourquoi? Parce que l'homme réactif, c'est l'homme qui est coupé de ce qu'il peut, qui est en permanence coupé de ce qu'il peut. Et quand tu regardes ta vie, ton existence, si tu regardes objectivement les choses, moi j'ai toujours l'impression, bien que j'ai construit ma vie sur une espèce d'horizon de liberté, malgré tout, j'ai toujours l'impression que je suis coupé en permanence de ce que je peux. Je ne peux pas aller au bout de telle ou telle capacité de perception, de telle ou telle, tu vois, capacité de pensée, d'imagination, de volonté, etc. Et donc, on ne va pas au bout de ce qu'on peut. Et on ne nous éduque pas, en plus, si tu veux, tout le système éducatif, tout le système de formation, etc., n'est pas construit pour qu'on aille au bout de ce qu'on peut. Voilà. On te normalise, on te cadre, on t'empêche, on te dit ça, c'est interdit, ça, machin, tu vois. Donc voilà. Donc quand la pensée transhumaniste arrive, elle essaye de compenser ce truc-là en faisant fonctionner la pensée magique dans ce truc-là. Moi, je dis non, c'est pas ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le transhumain, c'est le surhumain. C'est comme Nietzsche l'a défini. Et le surhumain chez Nietzsche, c'est pas ce que les nazis ont dit. Le surhumain, c'est juste l'homme qui va au bout de ce qu'il peut, tu vois. C'est-à-dire qu'il utilise la totalité des capacités humaines existantes pour les pousser à leur plus haut degré d'intensité, tu vois. Mais t'as pas besoin de drogue, t'as pas besoin de transhumanisme, t'as pas besoin de greffe, t'as besoin de rien, tu vois. C'est juste va au bout de ce qui est en toi, tu vois. Voilà. Donc moi, j'ai une sorte de surhumanisme, tu vois. Et voilà, la honte, c'est ça. Hein. C'est des gens qui, avec juste des capacités humaines, vont au bout de leur truc. Donc après, tu peux avoir une autre perception et dire, voilà, non, il nous manque des choses, pourquoi on s'interdirait de se technogreffer, pourquoi on s'interdirait d'ajouter artificiellement des choses à l'espèce humaine. C'est tout à fait possible. Moi, pour moi, le plein, voilà, moi je suis dans l'immanent, c'est-à-dire ce plein immanent qu'on a en nous, j'ai envie de le pousser, cette puissance, j'ai envie de la pousser. Moi, je trouve qu'on nous vend du pouvoir, moi ce qui m'intéresse, c'est d'habiter ma puissance. Voilà. La puissance, elle est là, et j'ai besoin de personne pour la faire exister.
Il y a par rapport à ce que vous disiez, je vous conseille un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle L'adieu au corps, qui est écrit par un anthropologue qui s'appelle David Le Breton. Voilà, on aurait dû inviter David Le Breton. Mais bon, voilà. Qui dit
la maison populaire, c'est n'importe quoi.
parce que c'est assez. Et ça, je pense que ça pourrait répondre à votre interrogation. C'est-à-dire, en fait, évidemment, qu'on a une heure de conférence-performance avec Alain. Bon, après, Prométhée, c'est quand même un peu particulier. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec l'interprétation que je connais, mais passons. Mais David Le Breton, il analyse bien le discours transhumaniste en montrant justement cette image de l'homme négative qui est proposée avec cette utopie. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément la suivre. Ça veut dire qu'en fait, il y a un ensemble de discours, et c'est compliqué de résister à l'ensemble des discours qui nous entourent en permanence, qui passe son temps à vous, enfin vous, pas que vous, mais à nous dire, il faut aller plus, et ce plus, vous n'allez pas l'atteindre tout seul. Avant, il y avait les religions qui nous aidaient des fois à déplacer les montagnes, ou la foi, disons, plutôt que les religions. Dans un monde sécularisé, en fait, ce qui vous pousse en avant, alors ça peut être l'attrait du pouvoir, ça c'est les discours américains qui passent leur temps à nous dire, voilà, je suis dans un ghetto, puis force de volonté, je suis arrivé, puis... Hein. Et puis dans le discours transhumaniste, bah, David Le Breton, il relie ça en disant, Voilà, ben, qu'est-ce qu'on dit quand on dit la grève, puis les thérapies, puis... qu'est-ce qu'on dit d'abord, indépendamment du fait que ça soit positif ou négatif? Pourquoi est-ce qu'on vous dit oui, mais bon, les cellules souches, c'est quand même bien, parce que si votre grand-maman, elle est malade, vous voulez la sauver, bon, ça dépend de la grand-mère. Mais on va utiliser une scénarisation qu'on appelle du storytelling, et ça fonctionne. Et c'est normal, tout le monde veut sauver presque sa grand-mère. Mais c'est pas comme ça qu'on fonde le contrat social. Donc moi, je vous conseille ce bouquin, l'adieu au corps.
Ouais, merci. Je peux juste dire un extrait de l'année que je lis, que l'homme révolté de Camus, que je relis, que je vais te lire parce que c'est génial. Qui, je sais pas, c'est une petite note à la fin qui dit la science d'aujourd'hui trahit ses origines et nie ses propres acquisitions en se laissant mettre au service du terrorisme d'État et de l'esprit de puissance. Sa punition et sa dégradation sont de ne produire alors, dans un monde abstrait, que des moyens de destruction ou d'asservissement. Mais quand la limite sera atteinte, la science servira peut-être la révolte individuelle. Cette terrible nécessité marquera le tournant décisif.
On n'aurait pas pu inviter Camille, mais merci.
Allez, 5 ans, merci.
On a invité Camille.
Oui, moi, je rebondis sur les 3 choses, en fait, sur le rapport entre l'humain augmenté et, en fait, la boucle, enfin, le mal auquel il répond. Parce qu'en fait, comme on dit depuis l'Antiquité, il y a... l'humain, il va avoir une souffrance et il va vouloir la résoudre en s'augmentant, et que maintenant on va vouloir être transhumain avec les machines parce qu'on a des souffrances vis-à-vis des machines ou vis-à-vis du temps de concentration avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et en fait, on veut se soigner d'une plaie que... enfin, c'est la même famille entre la plaie et le soin, donc ça n'a pas vraiment... Et en fait, le rapport au transhumanisme, pour moi, depuis l'Antiquité, ça serait par exemple avant les gens qui faisaient du sport... Ils avaient l'impression que tout était en eux et qu'en fait ils pouvaient trouver un second souffle en faisant peut-être 30 ans de méditation, de sport. Et en fait, ça serait intéressant de voir les différents humains plus à chaque époque, ce qui serait dans d'autres époques. En fait, ce que serait par exemple le moine qui a fait 30 ans de méditation ou de karaté, ce qui serait dans un futur où les gens un futur où les gens penseraient que le vraiment l'humain augmenté serait l'humain cybernétique, alors que peut-être finalement l'humain cybernétique serait que l'accro à la drogue de la dépression du moment, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que serait l'humain cybernétique dans un autre contexte
Je trouve intéressant, juste, je vais rebondir juste sur un élément, parce que je ne vois pas trop comment rebondir sur les autres, c'est ce que vous dites par rapport à la question de fragilité par rapport aux machines. En 1956 paraît un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, écrit par le premier mari, on peut toujours dire ça parce que c'est moins général, c'est dans l'autre sens qu'on va. Donc c'est le premier mari de Hannah Arendt qui s'appelle Günther Anders. Et Günther Anders écrit un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui a été réédité dernièrement là chez Livraire, qui dit que dans un monde de la machine, et c'est pour ça que le transhumanisme, moi je fais toujours attention à pas cette espèce de tentation totalisante qui fait que vous voyez, tout a toujours été la même chose de tout temps. Ça fait quand même un moment qu'on sait que, enfin, un peu gaffe avec les Grecs, leur mythe, tout ça, c'est pas tout à fait la même chose que pour nous. À peine avec le XVIIe siècle, vous imaginez le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans l'obsolescence de l'homme, il dit on a développé une civilisation des machines, et ces machines sont parfaites. Parce qu'elles remplissent parfaitement leurs fonctions. Donc, tant que la fonction humaine était remplie par des discours religieux de l'ordre de la foi, ça allait, ça donnait du sens. Mais à cause du monde sécularisé, en lien avec le technocapitalisme, il n'y a plus de direction. Heisenberg, le physicien, disait « Nous sommes entourés tout le temps de nous-mêmes et nous n'avons plus de direction. » Et donc, dans l'obsolescence de l'homme, il dit « On développe une honte, ce qu'il appelle la honte prométhéenne. » Il dit « On a honte des machines parce qu'elles sont trop parfaites. » Alors, il dit « Je ne serais pas surpris que l'être humain veuille ressembler aux machines. » Et apparaît, quelques années plus tard, la figure du cyborg, qui est la contamination de l'humain par la machine. Voilà, c'est la seule chose que j'aimerais dire. L'obsolescence de l'homme, magnifique. Mais ça, c'est... Voilà, après le reste, Damien, bon. Oui, mais madame, après. Pas avant. Non, c'est pas contre vous.
Non, c'était juste des remarques qui m'ont venues rapidement, mais il a été question de la science. Justement, peut-être que c'est ça. Juste pour préciser qu'aujourd'hui, quand on parle de science, les recherches contemporaines tendent à redéfinir ça comme étant le savoir en général. L'anthropologie peut être une science, puisqu'elle peut être falsifiable. Et j'ai noté que vous n'utilisez pas forcément le mot science, mais plutôt technologie ou d'autres dérivés. Je trouve ça intéressant d'avoir une précision épistémologique là-dessus. Ensuite, deuxième élément, je trouvais ça assez intéressant aussi en termes logiques de se dire qu'une utopie, de toute façon, ne pouvait être que figée, puis, puisque précisément elle admettait aucune transformation. Et il y a peut-être une référence bibliographique, vu qu'on en est là, c'est l'institution imaginaire de la société, le Castoriadis, qui me semble être assez convergente justement par rapport à ces préoccupations. Et une autre aussi, c'est que je suis en train de me remettre dans La violence et le sacré, donc de René Girard, qui a pas mal de problèmes, mais qui dit une chose qui me semble intéressante au sujet de la science, cette fois-ci comprise comme étant une science dure, qui est celle du rejet de la violence, en fait. Et qu'un discours scientifique se constitue sur un espace clos, parce qu'il s'agit à un moment d'essayer, justement, comme le fait Descartes aussi, enfin, il l'exprime très bien, de trouver une clé de voûte qui va permettre d'avoir pied, parce que tout le reste est complètement mouvant, quoi. Et le discours scientifique, justement, repose sur des axiomes qui ne peuvent pas nous permettre d'être mis en question, parce que sinon on n'avance pas et qu'on fait un autre type de travail. Mais du coup, on institue un sens commun qui ne peut pas forcément être narrativisé. Puisque le risque, ce serait de déjouer, le risque, ce serait de remettre en question ces mêmes axiomes-là sur lesquels ils reposent. Et peut-être que là, on touche une question qui est vraiment d'ordre épistémologique sur la possibilité de narrativiser la science sans intégrer sa violence, en fait.
Je pense que narrativiser les sciences, c'est les raconter. Et au-delà de la structure, on va dire, épistémologique ou logique de telle et telle science, en même temps, c'est quand même assez complexe, parce que c'est pour ça que j'évoquais Darwin, c'était pas pour dire que j'étais créationniste, hein, c'était plutôt pour rappeler qu'il est très compliqué pour nous, lambda, moi en tout cas, de pouvoir falsifier la théorie de Darwin. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on accepte une évidence scientifique, un savoir qui nous est appris à l'école, Alain disait, on est formaté par l'éducation, mais on n'a pas les moyens, ni intellectuels, ni empiriques, de pouvoir démontrer si Darwin a raison ou tort. Donc on l'accepte. Voilà, tout comme on accepte les 15 milliards, enfin les 43 milliards d'années d'existence de l'univers, ou les 90% de matière noire alors qu'on ne les a jamais observées, et puis on n'est pas capable de faire autre chose que de l'accepter bigotement, en fait, parce qu'on n'a pas les moyens intellectuels. Hein, c'était ça l'idée de la science. Donc la question de la technoscience, c'est plus quelque chose de l'ordre de Foucault, c'est l'association entre les technosciences et le pouvoir. Et c'est bien pour ça que moi j'ai plus parlé de technosciences que de science, parce que la mythologie est une science. Et c'est juste qu'elle a un autre registre de rationalité que, par exemple, la science darwinienne. Les sciences sociales sont des sciences, mais qui sont des principes logiques qui sont quand même problématiques parce qu'ils sont tautologiques par définition. Donc c'est pour ça que je pense que technosciences, c'est pratique, c'est un peu. Il y a quelque chose qui est déjà en lien avec la modification de la condition humaine et est donc déjà narrativisable. C'est pour ça que la science-fiction ne parle jamais de physique quantique. Enfin, ce n'est pas intéressant. Par contre, elle parlera beaucoup plus de choses qui sont en lien avec ces technosciences, l'omniprésence de machines, la question des déplacements, la vitesse des déplacements, la question de l'espace, la colonisation de l'espace, toutes des choses où, en fait, les sciences sont instrumentalisées à des fins idéologiques de biopouvoir.
Bon, je vais faire un coup court parce que je ne serais pas capable de faire quelque chose d'aussi structuré. Mais il y a un certain nombre de, pas de hier, mais de choses qui sont indiquées. On a des pistes et tout ça, mais vous parlez très très peu, on parle de technosciences, on parle de beaucoup de choses, de la nature, tout ce qui peut être de l'ordre du biomimétisme, des contraintes qui sont inhérentes à des choses qui sont, ça me semble extrêmement ethnocentré en fait, la façon dont vous avez présenté les choses. Dans ce que M. Damasio a écrit, c'est encore autre chose, c'est de la littérature, c'est différent. Mais ça me semble extrêmement ethnocentré. Au sens où on envisage l'amélioration comme étant quelque chose qui serait une étape supplémentaire ou une régression d'une certaine façon. Mais ça me paraît extrêmement théologique, ouais, ce serait quelque chose qui adviendrait comme dans le négatif comme dans le positif, mais qui de toute façon adviendrait.
C'est tout. C'est bon, on a dit ça.
Non, mais il faut être sérieux. C'est un discours occidental, tu vois. C'est un discours occidental, c'est un discours ethnocentré, c'est un discours anthropocentré.
Le vert, clairement, la chlorophylle, quoi.
Oui, mais je te rappelle que ces corps concepts, c'est vraiment une exposition centré sur l'enjeu du transhumain.
Et oui, mais là, sur le corps, lui voilà. aussi, on doit faire la vitamine K et tout ça, on a besoin du soleil.
On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais justement, c'est ce qu'on, je pense, qu'on met en question. Tu vois c'est,
ah, où est le vivant hors humain là-dedans? Si je devais poser une question là. Où est le où sont les non-humains là-dedans?
Quelle sera l'évolution de toutes les autres formes de vie, excepté l'humain, si nous on est porté à aller plus tard, augmenter qu'adviendra-t-il des autres sortes de
vie? D'abord, on ne sera pas tous augmentés.
Ça, c'est sûr.
On va dire, mettons, dans 3 ans,
pour ça, il faut demander aux auteurs de science-fiction.
Avec l'animal.
Vous n'avez pas compris la fin de ce que vous avez dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle est plutôt justement mise en avant par les scientifiques qui se réclament de près ou de loin du transhumanisme, c'est-à-dire vers quoi on peut aller. Moi, j'ai pas vraiment. Moi, j'essaie déjà de savoir à peu près ce qui se passe maintenant, là. Oui, dans 3000 ans, j'en sais rien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les formes du vivant n'apparaissent pas du tout dans ces utopies transhumanistes.
Alors pourquoi, du coup ?
J'en sais rien, mais je ne suis pas transhumaniste. Mais je veux dire... Parce que c'est un marché. Parce que la médecine, déjà, est un marché. Parce que les soins à 14 vitesses, c'est déjà un marché.
Tu observes les animaux pour...
Non, mais parce que c'est un spécisme absolu. Enfin, je veux dire, c'est un anthropocentrisme absolu. On est bien d'accord, tu vois. Moi, une des choses qui me dégoûte dans le transhumanisme, c'est qu'il n'y a pas plus spéciste que ça, tu vois. Les autres espèces, on n'en a rien à foutre, c'est l'homme. L'homme, tu vois.
Pourtant, ils copient les
capacités. Donc voilà, donc après, vous posez la question des autres espèces, bien sûr, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est justement, on est sur une visée critique d'une conception de l'humanité qui est complètement concentrée, tu vois, qui en plus, voilà, qui pour moi me paraît extrêmement pauvre dans sa qualité de relation avec le hors humain, quoi, tu vois. Évidemment, tu vois, c'est
assez peu, je crois. Enfin, en tout cas, dans moi, ce que je connais un petit peu de ça, il me semble que c'est effectivement pas pertinent. Ni la nature, d'ailleurs, enfin, la nature étant une construction quand même un peu anthropocentrique, hein, mais ni la nature, ni l'animal, ni rien. On se sert de l'animal, du mimétisme, c'est quand même déjà une modélisation de certains phénomènes animaux qui sont quand même toujours intéressants à condition qu'ils puissent toucher l'homme. Hein, donc, la nature absolue, bon, déjà, est-ce qu'elle existe dans le transhumanisme? Moi, je ne la connais pas. Et dans le monde contemporain, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits où elle continue à exister. Souvent, c'est Heisenberg qui disait « La nature qu'il y a autour de vous, c'est celle qu'on a accepté de laisser autour de nous. »
Juste, ça va être la dernière question, parce qu'il va falloir qu'on arrête la soirée. Je suis désolée,
je veux
juste organiser
contre
vous.
Dernière question. Moi, je
ne prends
pas cette responsabilité.
Il faut des réponses de 3 secondes. Ouais, vas-y.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que c'est hyper intéressant de parler du corps comme un véhicule. Mmh. Et je me demandais quel lien on pouvait faire avec d'autres récits, par exemple la réincarnation qui a un peu cette idée-là aussi. Est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce qu'on peut dire ces deux récits sur un même point de départ, qui est que le corps est différent de l'âme et de qui on est en tant que personne?
Enfin, je sais pas,
quoi. C'est une question que je pose très ouverte et je veux voir votre avis sur le lien qu'on peut créer entre ces deux histoires. Finalement, sans se rejoindre. Vas-y. C'est chaud. Le statut de la réincarnation par rapport au transhumanisme. Ouais, c'est intéressant. Non, j'en sais rien. Mais effectivement, enfin, c'est la base est la même au sens où ça veut dire qu'effectivement le corps est un véhicule qui a un esprit, une âme, etc., qui circule et qui peut être transféré. C'est vrai qu'on est dans ce discours-là sur l'immortalité numérique, chez Kurzweil, etc. C'est l'idée qu'effectivement le cerveau, ou l'ensemble des informations contenues dans le cerveau, pourrait elle-même être transférée dans une machine et réincarnée dans un système informatique. Donc oui, c'est un peu les mêmes systèmes analogiques qui sont...
Ouais, en même temps, ce qui est... Chez les adeptes de la numérisation de l'esprit, c'est parce que l'esprit n'est qu'un épiphénomène corporel. C'est-à-dire qu'en fait, le pattern, donc l'ensemble de ce qui se passe dans votre cerveau à un moment donné, serait le seul élément définitoire de votre identité. Après, il y a quand même le corps qui revient un peu là-dedans, hein. Hein, mais on pourrait très bien imaginer, et c'est souvent ça le problème du transhumanisme, c'est qu'il est tout à fait imaginable d'avoir un système informatique qui fonctionne sur le même modèle que le cerveau humain. Imaginons. Donc, pour l'instant, je crois qu'ils ont réussi à modéliser 30 000 neurones, c'est-à-dire à peu près celle d'un ver de terre. Par contre, la question, c'est de quel humain parle-t-on ? Et c'est une des problématiques assez essentielles de cette méthode, des fois, un peu, qu'on voit apparaître dans le transhumanisme, c'est la réduction. C'est, en fait, le corps est un véhicule. Voilà. On peut changer de véhicule parce qu'il n'y a plus d'âme. Hein, c'est bien ça la problématique. L'âme, elle a quand même toujours été de nature métaphysique. Et la fin de la métaphysique au 19e, on parlait de Nietzsche avant, etc. C'est aussi cette idée qu'en fait, tout n'est qu'un épiphénomène du corps. Maintenant, on revient, et ça je trouve intéressant en termes de subversion, alors plus forcément technologique, on voit réapparaître des mouvements très post-hippie. Le New Age, on revient à l'âme, on se dit, bon, on s'en fout que ça soit pas vrai, on préfère l'idée qu'il y a une âme que pas... On en a marre d'imaginer que notre identité, c'est que des espèces d'inputs dans le cerveau, parce que ça ne nous parle pas du tout. Alors, on ressuscite la pensée magique, qui est d'ailleurs une pensée qui est beaucoup plus ancienne que toute forme de pensée rationnelle, qui est née au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il y a quelque chose d'intéressant d'une génération, des jeunes générations, qui se disent, finalement, ce monde du tout physique, il est chiant, quoi. Et personne n'y croit, par ailleurs. Parce que c'est ça, c'est que personne ne vit ça. Oui, il y a Welbeck qui écrit ça dans Les Particules élémentaires, quand il est au cinéma, puis qui met la main sur la jambe, comme ça. Il parle de ça comme une sorte de flux d'électrons. Personne fait ça. Si vous faites ça, vous êtes freaky pour aller dans l'hôpital. Donc, en fait, c'est ce retour de l'âme, etc. Et on va toucher les arbres, la nature, et on parle aux pierres, tout ça. Ça peut paraître bizarre, mais on voit une sorte de révolte, d'une certaine manière. Ce qui n'empêche pas d'avoir un téléphone pour parler. Bon, mais on va se faire engueuler.
Une dernière.
On va se faire engueuler.
Par exemple, vous avez dit les Fab Labs, c'est positif. Par exemple.
Ouais.
Et alors, à quel moment, parce que, bon, évidemment, quand vous écrivez une science-fiction, il y a quand même un tropisme technique d'une certaine manière. C'est qu'il y a quand même une certaine fascination, même si vous montrez un univers dystopique, il y a une fascination pour tout ça. Et du coup, alors, il y a tous ces univers alternatifs qui gravitent autour de ce truc hyper mainstream, qu'on vit tous dans cette salle où j'ai mis. Et en même temps, voilà, il y a ces trucs-là, comme les Fab Labs, qui finalement a été conçu aussi dans le giron du MIT, tout autant, alors c'est des expériences assez qui sont pas homogènes, mais on peut voir où finalement les Fab Labs, enfin pour en avoir observé quelques-uns, qui participent aussi à la diffusion d'une idéologie managériale qui est tout aussi normalisante que ce que vous mettez dans vos bouquins. Du coup, comment on se positionne un petit peu sur le partage, le technique, c'est de toute façon son prolongement est forcément totalitariste, et en même temps il y a ces espèces de petites fictions alternatives qui viennent se loger un peu dans les interstices et qui en même temps diffusent aussi dans le corps social des logiques qui sont pas forcément souhaitables et qui sont tout aussi instrumentales et utilitaristes que ce que vous dénoncez.
Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, bon, je crois que je vais m'énerver parce que c'est le soir, mais non, pas du tout. Enfin, toi, ce qu'il faut analyser dans ce qu'apporte une technique ou une technologie, c'est est-ce qu'elle t'ouvre le monde ou est-ce qu'elle te le ferme ? Est-ce qu'elle te permet de construire des liens avec les autres ou pas ? Tu vois ? Est-ce qu'elle te permet de faire des choses qui créent ou qui formatent ? Tu vois ? Je suis désolé, les Fab Labs, tu peux les critiquer comme tout est critiquable, bien sûr, mais ça permet d'ouvrir quand même une création collective, ça permet d'ouvrir une création ensemble, ça réunit des gens sur les mêmes lieux, ça permet de créer les objets qui n'étaient pas existants auparavant et puis d'individualiser un peu ton cas de vie. Ça permet quand même pas mal de choses qui me paraissent intéressantes, tu vois. Donc moi, toute technologie qui accroît, qui vient se mêler à ta puissance intérieure, qui vient ouvrir cette puissance intérieure et la déployer, c'est très bien. Une technologie qui vient juste, de façon hétéronomique, c'est-à-dire qui juste est là pour augmenter mon pouvoir, mais sans développer le moindre gramme de puissance intérieure, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, il y a un truc qu'on dit sur les gamins que je trouve génial. Tu vois, il y a des gens qui analysent les jouets qu'on donne aux gamins. Moi, j'ai deux filles. Tu vois, c'est un truc que j'adore. C'est, tu donnes un jouet à une gamine, tu donnes une poupée inerte et machin, 100% du jeu, il est dans la tête de ta gamine, tu vois. Il est dans la puissance imaginative de ta gamine, tu vois. Si tu donnes une tablette, tu as 90% du jeu qui est sur la tablette. Et seulement 10% qui va venir de ce qu'elle va faire, etc. Tu vois ? Je te fais un exemple à l'arrache, complètement critiquable, ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil pour la technologie, quoi. Tu vois, tu as des technologies où 90-95% de ce que tu vas faire avec vient de toi et déploie quelque chose d'intéressant. Il y a des technologies qui sont, qu'on appelle hétéronomes, c'est ce que Ivan Illich appelle hétéronomes, c'est-à-dire qui te privent d'une certaine autonomie, qui te privent d'une certaine indépendance et qui n'accroît pas les capacités propres que tu as. Voilà. Et ça, c'est un vrai critère. Pour moi, c'est un vrai critère. C'est ce que j'appelle le critère pouvoir-puissance. Et nous, on nous vend du pouvoir en se posant très rarement la question de la puissance. Si je définis la puissance au sens de spinoziste, hein, du conatus, c'est-à-dire voilà, la puissance de vie que ça permet de se déployer. Voilà. Et c'est un vrai critère. Pour moi, c'est un vrai critère. En tout cas, moi, quand les technologies m'arrivent dessus et qu'on me propose des technologies, mon critère, je me dis, ok, ça m'accroît la puissance. Toute technologie accroît le pouvoir, d'accord. Mais est-ce que ça accroît ma puissance? Est-ce que ça m'ouvre en termes de rapport aux autres, de rapport à moi-même et de rapport au monde, tu vois? Voilà. Et ça, c'est un vrai critère. C'est pas un critère de... Parce que tu vois, sinon on tombe tout le temps dans le discours qu'on entend mille fois, ouais, la technologie est neutre, ça dépend comment on l'utilise, machin et tout. Mais c'est pas ça le problème, quoi, tu vois, c'est... Même ça, quoi.
Merci beaucoup.